L'Ukraine, donc, l'Ukraine où la situation est toujours très tendue. 3 jours pourtant après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Hier, les combats faisaient rage dans la ville stratégique de Debaltseve, à l'est du pays, entre rebelles pro-russes et armées ukrainiennes. Cet accord négocié le week-end dernier à Minsk entre Vladimir Poutine, Angela Merkel et François Hollande n'a-t-il servi à rien? La paix a-t-elle encore une petite chance dans ce pays déchiré entre Europe et Russie? Bonjour Tornike Gordadze.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être notre invité ce matin. Vous êtes professeur associé à Sciences Po Paris. Vous êtes ancien ministre géorgien de l'intégration européenne en duplex de Paris, donc ce matin jusqu'à 8h. On va commenter l'Ukraine, mais pas seulement avec vous. On va parler aussi d'autres pays de cet ancien bloc de l'Est, comme la Hongrie, à travers la presse. D'abord sur l'Ukraine et ce cessez-le-feu signé ce week-end. Toujours des combats, on l'a dit, notamment à l'Est, notamment dans cette ville de Debaltseve. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà qualifier cet accord signé ce week-end d'échec?
Cet accord, quand les protagonistes qui ont signé cet accord le week-end dernier sont rentrés chez eux, avaient déjà quelques doutes par rapport à la réalité ou à la possibilité de mettre en œuvre cet accord. Vous vous rappelez qu'aussi bien Angela Merkel que François Hollande que le président ukrainien étaient quand même assez dépités après ces 16 heures de négociations. Certes, ils ont arraché un accord, certes l'accord n'était pas terrible pour l'Ukraine, mais en même temps, tous les trois émettaient des doutes par rapport à la faisabilité de ces accords. Et votre reportage m'a vraiment frappé, parce que vous voyez l'un des leaders de cette république autoproclamée de Donetsk, qui ils sont en train de prendre une ville, ils sont en train d'attaquer, et il accuse la partie adverse de violer le cessez-le-feu. Plus de 160 violations du cessez-le-feu ont été constatées du côté des séparatistes, et ce sont eux qui sont en train de gagner du terrain. Donc il y a quand même une partie qui très très clairement ne respecte pas le cessez-le-feu depuis le mois de septembre, parce qu'il y a eu un premier raccord à Minsk, donc Minsk 1, et depuis Minsk 1, ils ont déjà gagné plus de 600 km² de terrain.
Donc les cessez-le-feu ne servent à rien finalement, tout le monde s'accorde à le constater. Posant la question comme ça, Tornike Gordadze, est-ce qu'on peut encore croire maintenant à une issue diplomatique de ce conflit?
L'issue ne sera que diplomatique. Il n'y a pas d'autre solution. La solution militaire ne sera pas une solution définitive. On sait très bien d'un côté ou de l'autre. Donc il faut continuer à l'effort diplomatique, mais en même temps il faut permettre à l'Ukraine de se défendre, parce que il y a un tel déséquilibre des forces. L'Ukraine est en train de construire ses forces armées. Ses forces armées étaient totalement inefficaces lors des gouvernements précédents, totalement infiltrées aussi des différents services russes. Et en face, vous avez des forces rebelles, entre guillemets, qui sont rebelles qu'en apparence, parce que ils sont composés également des unités qui viennent directement de la Russie, et c'est un fait avéré. Pour la première fois, l'Union européenne a reconnu qu'en mettant notamment sous sanction deux adjoints du ministre de la Défense de la Russie, en les accusant directement d'être à l'origine, en tout cas d'organiser l'envoi des troupes russes et du matériel russe en Ukraine. Donc il y a un tel déséquilibre que si on continue à parler et de dire de ne rien faire d'autre, l'une des parties va l'emporter.
Oui.
Train d'emporter.
Vous avez été ministre de la Géorgie, Tornike Gordadze. C'est un pays dont on a beaucoup parlé à l'époque, la Géorgie qui a perdu deux régions, l'Ossétie et l'Abkhazie, au profit de la Russie, justement. Est-ce qu'on va assister à un scénario similaire avec l'Ukraine?
Ça y ressemble fortement. Vous avez déjà la Crimée qui est entièrement annexée et dont on ne parle plus. Si vous avez remarqué, l'accord qui a été signé à Minsk ne parle pas du tout de la Crimée. C'est un fait accompli déjà.
De facto, donc, elle a été cédée aux Russes, voilà, c'est ça.
Elle a été cédée aux Russes. Évidemment, personne ne reconnaît, la communauté internationale ne reconnaît pas cette annexion, mais on n'en parle plus parce que c'est une étape qui est déjà passée. Maintenant, on parle de l'Est de l'Ukraine. Et comme en Géorgie, en Ukraine, l'objectif de Vladimir Poutine, ce n'est pas tellement d'annexer un nouveau territoire, d'avoir plusieurs millions de citoyens d'une région dévastée à sa charge. Ça, il n'en veut pas, je pense. L'objectif, c'est de déstabiliser durablement l'Ukraine, faire en sorte que le gouvernement ukrainien soit incapable de gérer cette crise, et que nous, les Européens, les Occidentaux de façon générale, abandonnions définitivement l'Ukraine, que toute perspective de rapprochement de l'Ukraine avec l'Occident et notamment avec l'Union Européenne soit compromis. Et ensuite, évidemment, l'étape suivante sera de mettre en place un gouvernement pro-russe à Kiev. À court terme, c'est de faire de l'Ukraine un État failli ou un État dysfonctionnel, une sorte de Bosnie-Herzégovine ou, dans le pire des cas, une sorte de Somalie, une espèce d'anarchie continue.
Oui, on fait pourrir la situation, c'est ce que veut le président Poutine. Justement, Tornike Gordadze, il est question de ce que veut Poutine dans la presse suisse. On va tout de suite lire un article qu'on commentera avec vous ensuite. Patrick Chaboudet, vous êtes avec nous dans la presse alémanique. Les espoirs de paix en Ukraine orientale sont totalement en berne.
Oui, aucun cessez-le-feu sur le terrain, pas de retrait des armements lourds comme c'était prévu dans l'accord de Minsk et des violents combats à Debaltseve, un point stratégique pour les séparatistes russophones. Pour le contrôler, il leur faut une logistique et des armements renforcés. En bref, écrit le Tagesanzeiger, ils ont besoin de l'armée russe, dont le commandant en chef Vladimir Poutine ne fait rien pour freiner l'escalade. Au contraire, comment croire dès lors que la signature du président russe a la moindre valeur? Et c'est regrettable de voir des pays de l'Union européenne comme la Hongrie dérouler le tapis rouge pour accueillir Vladimir Poutine. Proposer un allègement des sanctions n'empêche pas la guerre. Au contraire, selon le quotidien, c'est encourager Poutine à lancer de nouvelles offensives.
Voilà, cet article dit la même chose que vous, Tornike Gordadze. Le président Poutine veut pourrir la situation. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec lui? L'Europe, par exemple, n'est pas assez ferme. Il faudrait montrer plus les muscles, agir de manière un peu plus musclée vis-à-vis de la Russie.
Disons qu'il faut être déjà uni. Il ne faut pas qu'il y ait des voix discordantes au sein de l'Union européenne. Il ne faut pas que certains pays, comme la Grèce ou la Hongrie ou encore d'autres pays, parlent différemment, disent que il est temps de lever les sanctions, etc. Il faut une unité au sein de l'Union européenne et également il faut une unité dans le groupe, dans les alliés, parmi les alliés transatlantiques, notamment avec les Américains et les Canadiens. Parce que l'objectif de la Russie, ça a toujours été de diviser l'Occident, entre guillemets, parce qu'ils voient l'Occident comme un ensemble. D'un côté les Américains, ensuite les Européens, et à l'intérieur de l'Europe, entre les Européens de l'Ouest, qui sont censés être moins concernés par ce qui se passe en Ukraine ou dans cette région du voisinage oriental, et les Européens du centre et de l'Est, qui, eux, sont vraiment aux avant-postes de la défense de cette frontière orientale de l'Europe. Donc, ça a été déjà l'objectif à l'époque soviétique, de la diplomatie soviétique, de mettre le désaccord entre les alliés, et aujourd'hui, ça continue. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut poursuivre les sanctions. Les sanctions ont un effet...
À moyen terme, plutôt. Un effet à moyen terme.
Oui, bien sûr. Ça n'a pas un effet immédiat, mais justement, ces sanctions ont commencé tellement à embêter le régime russe que ils se sont lancés dans l'escalade. Parce que l'escalade, c'est pas dans notre intérêt, l'escalade militaire. Nous savons très bien qu'aucun pays occidental n'est prêt à s'engager militairement sur le terrain. Et Vladimir Poutine est en train de monter les enchères, justement, sachant que nous, incapable de l'affronter sur le terrain militaire, on fera tout pour obtenir la paix, et notamment en faire des concessions, et des grandes concessions, aux dépens évidemment de l'Ukraine et des pays qui sont situés entre l'Union Européenne et la Russie. Donc c'est un tacticien, il fait planer la menace d'une guerre totale, il sait parfaitement que personne ne veut cette guerre totale en Occident. Par contre, permettre à l'Ukraine de se défendre, ça serait dans l'intérêt de tous, d'avoir un pays qui se bat aujourd'hui pour sauvegarder la sécurité, le système de sécurité en Europe qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale et ensuite à l'effondrement du bloc communiste, c'est dans l'intérêt de tous.
L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aurait stoppé les velléités du président Poutine. Vous l'avez dit ça à l'époque, Tornike Gordadze. Est-ce que c'est toujours votre avis? Est-ce que c'est un scénario toujours envisageable que l'Ukraine adhère à l'OTAN?
Disons que la question s'est posée en 2008 au sommet de Bucarest. Et à l'époque, les pays européens de l'Europe occidentale ont dit à la Géorgie, à l'Ukraine, non, en pensant sauvegarder la paix. Ainsi, parce que le calcul notamment de l'Allemagne et de la France, c'était si on dit oui à ces pays à l'OTAN, on provoquera la Russie et il y aura un conflit avec la Russie. Donc, on a longtemps célébré après 2008. Donc cette décision raisonnable, entre guillemets, mais qu'est-ce qu'on a eu en réalité ? On a eu la guerre. C'est-à-dire, on a eu la guerre en Géorgie et en Ukraine, les deux pays qui n'ont pas eu accès à l'OTAN, tandis qu'on n'a pas eu la guerre dans les pays baltes. Les pays baltes sont membres de l'OTAN. La Russie n'était pas contente lorsque les pays baltes et la Pologne, et la Roumanie, etc., ont adhéré à l'OTAN. Mais ça a mis la ligne rouge entre ces pays-là et la Russie. La Russie n'a jamais attaqué militairement la Lettonie ou l'Estonie, où la proportion des russophones, puisqu'on parle des russophones et on parle de la défense des russophones, est plus élevée qu'en Ukraine ou en Géorgie.
Monsieur Poutine ne s'en prendra jamais à ces pays.
Alors ça, c'est autre chose. Je pense que Vladimir Poutine teste la viabilité de l'alliance, notamment de l'OTAN, parce que son objectif, son grand objectif, c'est quelqu'un qui veut démontrer que l'OTAN est faible et que c'est une alliance sur le papier. Et l'article 5, ce n'est que quelque chose qui est applicable sur le papier. Donc il y a des tentations dans l'entourage proche de Poutine de tester la capacité de réponse de l'OTAN, notamment dans sa périphérie. Parce que, évidemment, la Russie ne souhaite pas affronter l'OTAN sur le plan militaire, la guerre totale, mais de défaire l'OTAN à moindre coût. Par exemple, faire une sorte d'une petite opération du type les petits hommes verts dans une province orientale de l'Estonie.
Ouais, des soldats sans matricule, hein, des soldats anonymes, sans matricule, c'est ça.
Voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passerait si, en plus, dans une région russophone, parce que l'Estonie, il y a des régions, des villes en Estonie où 90% de la population est russophone, la même chose en Lettonie. Qu'est-ce qui se passerait si une milice inconnue investit une ville ? Est-ce que l'article 5, donc la défense collective des membres de l'OTAN, va fonctionner ? S'il y a des discussions au sein de l'OTAN, est-ce qu'on va risquer la Troisième Guerre mondiale pour l'Estonie ou pour une petite ville en Estonie ou pour une petite province à l'est de Lettonie? Ça veut dire déjà que Vladimir Poutine a gagné. Donc, tout l'objectif du discours d'Obama avant le sommet de l'OTAN au Pays de Galles en Estonie, c'était ça, pour dire que l'article 5 fonctionne et attention, l'attaque ou une opération de quelque sorte que ça soit dans un pays de l'Europe de l'Est, membre de l'Alliance, provoquera l'activation de l'article 5. Donc à ce stade-là, il n'y a pas eu de tentative de déstabilisation dans ces pays-là, mais Vladimir Poutine ira aussi loin qu'on lui permettra d'aller. Donc il faut être extrêmement ferme. Et ce n'est pas en lui faisant des concessions qu'on obtiendra quelque chose, parce que c'est quelqu'un qui s'engouffre dans la brèche qu'il voit apparaître, et il ira très très loin s'il voit qu'on est indécis et s'il nous voit hésiter.
Donc rester ferme, ça c'est vraiment le mot d'ordre. Juste une question diplomatique aussi, parce qu'on sait que ça a beaucoup d'importance. À Minsk, ce week-end, ce sont donc Mme Merkel, M. Hollande qui sont allés négocier avec Vladimir Poutine. Est-ce que ça, à l'envers, ne montre pas un signe de faiblesse de l'Union européenne, de ne pas réussir à envoyer un de ses représentants? On aurait pu voir Mme Federica Mogherini, par exemple, ça aurait compté, elle n'y était pas. Et comment l'interprétez-vous?
En fait, c'est aussi c'est la caractéristique de la Russie. Les Russes ne reconnaissent pas l'Union européenne. Pour eux, enfin, ne reconnaissent pas, évidemment, ils voient que l'Union européenne existe, mais pour eux, ils ont toujours privilégié les relations bilatérales, parce que, encore une fois, dans leur esprit, il faut diviser l'Union européenne. L'Union européenne est un bloc et ça ne les arrange pas. Donc, ils ont toujours essayé de négocier bilatéralement avec Berlin, avec Paris, avec Londres, avec Rome. Donc, la même chose en 2008, sans Sarkozy, c'est-à-dire Sarkozy qui est allé voir Poutine, Barroso et Van Rompuy, et surtout Barroso, avait été très maltraité par les Russes. Il avait même été plus ou moins humilié au moment en septembre, lorsque Sarkozy est allé avec lui. Barroso, ils l'ont mis dans un coin. Ça montre montrer, ça montre aussi à quel point la Russie se méfie de l'Union européenne. Ils veulent pas l'Union européenne. Ils privilégient encore aujourd'hui. Ils financent, ils aident, ils s'allient avec les partis politiques au sein des États membres qui sont eurosceptiques, voire europhobes. Donc, ils feront tout pour affaiblir l'Union européenne de l'intérieur également. Donc, le fait qu'il y ait Hollande et Merkel, ce n'est pas une mauvaise chose parce que dans la tête de Vladimir Poutine, ce sont des personnages réels qui ont une réelle influence, tandis que pour lui, l'Union européenne, c'est quelque chose à la fois qui n'est pas souhaitable, mais aussi il aurait été beaucoup moins constructif. Enfin, ça me fait sourire parce qu'il n'a pas été très constructif non plus, mais ça aurait pu être encore pire s'il y avait eu uniquement l'Union européenne.
Alors, ça c'était évidemment pour la partie ukrainienne. On va commenter d'autres articles de l'actualité européenne et mondiale avec vous, Tornike Gordadze, professeur associé à Sciences Po Paris, ancien ministre géorgien. La Hongrie, justement, on l'évoquait tout à l'heure, la Hongrie, l'homme fort controversé de la Hongrie depuis longtemps, désormais, c'est Viktor Orban, George Pop. Il continue de faire tourner sa machine à réécrire l'histoire.
Oui, Poutine était en visite hier en Hongrie, l'occasion de constater une fois encore avec le journal La Liberté que Viktor Orban tente d'effacer toutes les taches du passé hongrois. Un exemple parmi d'autres, le monument à la gloire du nationalisme hongrois qui falsifie l'histoire selon les opposants au régime. Viktor Orban tente de réhabiliter le régime de l'amiral Horthy, autocrate qui a promulgué les premières lois anti-juives d'Europe avant Hitler. Il fut l'allié du Führer et son gouvernement, malgré quelques réticences, a quand même fini par coopérer pleinement avec les nazis dans la déportation des juifs. Or, sur le monument érigé par Orban, les Hongrois sont présentés comme des victimes de l'occupation nazie. Mais de quelles victimes parle-t-on, s'interroge cet historien hongrois. 99% des victimes du nazisme en Hongrie étaient juives et leurs bourreaux se sont même assurés qu'elles avaient bien payé leur facture d'eau, de gaz et d'électricité avant de les déporter.
Où va la Hongrie, Tornike Gordadze, Viktor Orban qui avait été un des jeunes réformateurs après la chute du mur, très anti-russe et qui maintenant est allié pragmatiquement à Monsieur Poutine. Oui. Est-ce que la Hongrie va compter dans la question, compte déjà dans la question centrale de ce conflit entre les Russes et l'Europe et l'Union européenne.
La Hongrie a une frontière avec l'Ukraine. La Hongrie, comme quelques autres pays de l'Union européenne, cède aux tentations de jouer un jeu dangereux avec la Russie. Je ne sais pas où va la Hongrie. Je pense que quand même le fait qu'il soit membre de l'Union européenne et de l'OTAN fait que il y a certaines limites au-delà desquelles ils ne peuvent pas aller. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir cette réécriture de l'histoire et aussi de voir comment Vladimir Poutine, qui dénonce d'un côté en Ukraine, il explique à la population russe que en Ukraine, ils sont en train de se battre contre les nazis et qui sont en train de rejouer la deuxième guerre mondiale contre les nazis soutenus par l'Union européenne. Et il va en
chacun
Hongrie,
est le nazi de l'autre au fond, c'est ça. Hein
oui, alors il va en Hongrie et il va assister à une espèce de réécriture de l'histoire de la deuxième guerre mondiale, réhabilitation d'un régime collaborationniste. Et ça ne le dérange pas. Donc on est dans une espèce de postmodernisme total où tout est bon, tous les arguments, y compris les arguments totalement contradictoires sont bons pour discréditer, pour attaquer l'adversaire.
Mais là aussi, faillite de l'Union européenne, pardonnez-moi, qui ne peut rien agir, qui ne peut rien faire contre la Hongrie où il se passe des choses assez étranges, pour le moins. Et là aussi, faillite de Bruxelles, qui ne peut pas intervenir.
Oui, ils ne peuvent pas intervenir dans les affaires. Déjà, il y a eu de sévères avertissements, un certain nombre d'avertissements, notamment lorsque les lois sur les médias ont été adoptées, il y a 2-3 ans, je crois. Oui. Mais ça n'a pas eu l'effet escompté. On voit que Viktor Orban continue à être assez populaire. Il a gagné les élections haut la main. Je pense que l'Union européenne doit tout faire pour, avec les pays comme la Hongrie ou la Grèce, de mettre les choses au clair et de leur expliquer. Et je pense qu'ils sont aussi en train de jouer, parce que Viktor Orban, vous l'avez dit vous-même, il a été assez anti-russe et assez sceptique vis-à-vis du passé communiste. C'est quelqu'un qui joue un jeu dangereux. Il veut obtenir plus de concessions en faisant planer cette possibilité qu'il s'alliera à la Russie si l'Union européenne ne lui donne pas ce qu'il veut, en gros. C'est ce que font les Grecs également.
Ah bah les Grecs, on va va en parler maintenant justement, plutôt sous l'angle économique, Tornike Gordadze, la sortie de la Grèce de la zone euro. On sait que les négociations sont très dures cette semaine entre le gouvernement de Tsipras et Bruxelles. Bah, c'est plus forcément irréaliste la sortie de la Grèce, Patrick Chaboulet.
Mais non, le Grexit, hein, selon la formule en usage, le Grexit paraît même toujours plus probable, estime la Berner Zeitung. C'est que la fierté blessée peut conduire à des réactions irrationnelles. C'est l'impression que donnent le discours et les positions du nouveau gouvernement grec. Aucune volonté de compromis de leur part, pour l'instant en tout cas. Alexis Tsipras et son ministre des Finances donnent le sentiment, nous dit le quotidien, d'être prêts à payer au prix fort leur détermination, même si cela aboutit à la sortie de la Grèce de la zone euro.
En 30 secondes sur cette question, Tornike Gordadze, est-ce que la Grèce peut, doit sortir de la zone euro maintenant?
Non, je pense pas qu'ils doivent sortir de la zone euro. Moi, si ça dépendait de nous, moi, évidemment, je dirais non. Mais ce qui m'étonne dans l'histoire de la Grèce, c'est que le parti d'extrême gauche qui a gagné les élections, au lieu de s'allier avec d'autres partis de gauche qui idéologiquement seraient pas aussi radicaux qu'eux, mais qui partageraient un certain nombre de choses, ils se sont alliés
avec des identitaires,
au parti de l'extrême droite, identitaire souverainiste, avec qui ils partagent la haine de l'Europe, ce qui est quand même assez étonnant.
C'est de la réelle politique, hein, on dit ça comme ça, non?
Oui, mais la réelle politique, on finira par provoquer des catastrophes avec ce genre de réelle politique.
Oui, donc pour vous, la Grèce ne doit pas sortir de la zone euro, on l'a bien compris.
Je ne vois pas l'avenir de la Grèce, notamment dans un bloc eurasien avec la Russie, parce qu'ils se rendent pas compte. Ces gens-là, comme en France ou dans d'autres pays de l'Europe, les partis identitaires ou d'extrême droite qui glorifient la Russie, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas bien la situation en Russie. Ce sont des gens qui lancent des slogans extrêmement superficiels. Ils ont aucune idée comment s'organise la politique dans ce pays, comment s'organise l'économie dans ce pays. Donc ce sont des slogans destinés avant tout à Bruxelles et non pas des choses réelles qui correspondent à la réalité.
Merci infiniment, le gong a sonné. Merci infiniment, Tornike Gordadze, d'avoir été avec nous en direct de Paris, de notre studio. Professeur associé à Sciences Po Paris, ancien ministre géorgien de l'intégration européenne. Je vous souhaite une excellente journée.